Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio Conciel, au micro Yves Bastide pour l'émission Tournepage. Et je voudrais vous parler aujourd'hui d'un livre qui vient de sortir aux éditions Fayard, le dernier livre de Hélène Carrère-Dancos, Le Général de Gaulle et la Russie. Ce livre, je le signale pour ceux que ça intéresse, est vendu au prix de 20 euros. Alors, Hélène Carrère-Dancos, je pense que beaucoup de gens la connaissent. Elle est membre de l'Académie française depuis 1990. En 1999, elle est devenue secrétaire perpétuelle de l'Académie française lorsque Maurice Thorion s'est retiré. Hélène Carrère-Dancos, dont le père était un aristocrate géorgien, a connu brusquement une célébrité très très importante en France et ailleurs en 1978 lorsqu'elle a fait paraître son livre L'Empire éclaté. Le livre a fait scandale, il a passionné, il a suscité des réactions pour et contre, tout simplement parce que en 1978 il annonçait la fin proche de l'URSS, de l'Empire soviétique. Alors, bien sûr, avec le recul du temps, les raisons qu'elle donnait à cet éclatement se sont révélées fausses, puisqu'elle partait du principe que ce seraient les républiques musulmanes qui amèneraient l'éclatement de l'Empire soviétique, alors qu'en fait, ce sont les républiques baltes qui, les premières, ont commencé à faire éclater cet empire. Mais Hélène Carrère-Dancos a quand même une double qualité. D'abord, c'est une historienne sérieuse, une historienne qui prend la peine de faire des recherches, qui en plus, quand même, et c'est important de le souligner, a directement accès aux archives russes et soviétique, ce qui n'est pas toujours le cas de certains historiens qui ont pignon sur rue. Et donc, elle peut elle-même se faire une opinion directement dans le texte. Et on a beaucoup parlé d'Hélène Carrère-Dancos ces temps-ci, lorsque l'Académie française a pris position de façon nette contre ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Il n'empêche que son livre, en dehors de toute polémique, est quand même passionnant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il évoque, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'au départ du général de Gaulle en 1969, il évoque toute une période dont on a peut-être plus ou moins oublié les péripéties et les enjeux qui ont été mis en lumière à ce moment-là. Je vais commencer par la Deuxième Guerre mondiale. Il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Officiellement, la France n'existe plus sur la scène internationale. Au niveau de la guerre, je veux dire. Elle a signé en 1940 et officiellement, ses soldats n'ont jamais participé aux actions contre Hitler. Et voilà que de Gaulle, installé à Londres, protégé par Churchill, arrive à s'imposer auprès des deux grandes puissances militaires que sont la Grande-Bretagne et les États-Unis. Alors, imaginez, lorsque de Gaulle va à Moscou en 1944, lorsqu'il rencontre Staline, lorsque il arrive à faire reconnaître la France comme un interlocuteur valable, comme le quatrième interlocuteur face à l'Allemagne, il y a là quelque chose de passionnant. Et le jeu de Staline est très intelligemment mis en relief avec sa façon de manipuler les gens, de jouer l'un contre l'autre. On sait que Roosevelt n'aimait pas De Gaulle, Churchill naviguait entre Roosevelt et De Gaulle, et Staline a très bien su, plus ou moins, imposer De Gaulle dans ce concert. Oh, bien sûr, en 1945, lorsque il y a eu la conférence de Yalta, De Gaulle n'a pas été invité. Mais il a obtenu pour la France le statut de membre permanent de l'ONU qui allait être mis en place. Il a su obtenir que la France est une zone d'occupation en Allemagne. L'Allemagne étant divisée en 4 secteurs, anglais, américain, soviétique et français. Il a su obtenir que la France est un secteur de Berlin, toujours partagé en 4. En clair, il a su accéder au statut de vainqueur. Alors, une chose qu'il faut souligner dans ce livre de Hélène Carrère-Danco, c'est que, à plusieurs reprises, elle cite d'autres historiens, elle cite des études qui ont été faites. On sent, en lisant, qu'elle n'est pas d'accord avec les conclusions des autres. Mais elle a la délicatesse, le tact, peut-être la classe, de ne rien dire, de suggérer simplement qu'on peut peut-être voir les choses différemment. Et je pense notamment à ces évocations du livre de Jean Lacouture sur la vie du général de Gaulle. Et là, on arrive à présent à la deuxième partie de ce livre, la deuxième partie tout aussi intéressante d'ailleurs que la première, lorsque De Gaulle revient au pouvoir en France. Et évidemment, depuis 1945, les choses ont changé, se sont, si vous voulez, solidifiées dans un certain sens, puisque l'Empire soviétique est désormais bien établi, apparemment bien établi. Et De Gaulle, devenu président de la République, va manœuvrer pour essayer de faire avancer son idée fondamentale, à savoir que l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural, pour reprendre son expression, que l'Europe est une association de nations différentes, quel que soit le système que ces nations ont choisi d'adopter. Et à ce titre, je voudrais vous lire un texte officiel. C'est un texte qui date de 1966. De Gaulle a été invité en URSS et il est invité par la télévision soviétique à faire une allocution. Voici le texte de son allocution. La visite que j'achève de faire à votre pays, c'est une visite que la France de toujours rend à la Russie de toujours. Depuis les temps très lointains où naquirent nos deux nations, elles n'ont jamais cessé d'éprouver l'une pour l'autre un intérêt et un attrait tout à fait particulier. En France, les Russes ont toujours été très populaires. Aussi, en venant vous voir, il m'a semblé que ma démarche et votre réception étaient inspirées par une considération, une cordialité réciproque que n'ont brisé depuis des siècles ni certains combats d'autrefois, ni les différences de régime, ni des oppositions récemment suscitées par la division du monde. Au contraire, l'estime que nous vous portons a grandi à mesure des expériences vécues, des épreuves traversées. Voilà pourquoi, en passant à Moscou, à Novosibirsk, à Leningrad, à Kiev, à Volgograd, en survolant vos plaines, vos fleuves, vos forêts, vos montagnes, en voyant près de moi vos femmes, vos hommes, vos enfants, j'étais rempli d'une émotion qui me venait du fond de l'histoire. Cette émotion, je la ressens au plus haut point en ce moment même, quand me voici devant vous tous pour saluer le peuple russe au nom du peuple français. Après l'immense transformation déclenchée chez vous par votre révolution depuis près de 50 ans, au prix de sacrifices et d'efforts gigantesques, puis après le drame terrible que fut pour vous la guerre gagnée, il y a plus de 20 années, et dans la part que vous y avez prise à porter l'Union soviétique au plus haut degré de la puissance et de la gloire. Enfin, après votre reconstruction succédant à tant de ravages, nous vous voyons vivant, plein de ressorts, progressant sur toute la ligne, au point que vous êtes tout près d'envoyer des vôtres dans la Lune. D'ailleurs, c'est en connaissant de cause que le peuple français mesure vos mérites et vos réussites. Car depuis tantôt deux siècles, il a connu lui aussi les secousses des grandes batailles, des invasions, des révolutions. Il a subi lui aussi, lors des deux guerres mondiales, et ensuite durement réparé, d'énormes pertes humaines et matérielles. Dire que dans le monde et à l'époque d'aujourd'hui, nos deux pays ont à faire ensemble beaucoup de choses de premier ordre. Or, ces choses-là sont non point du tout destructrices ou menaçantes, mais constructives et pacifiques. Si la France et l'Union soviétique, chacune de son côté, ont ce qu'il leur faut pour vivre, il est clair qu'en s'aidant l'une l'autre, elles ont à gagner beaucoup. À chaque homme et à chaque femme russe qui m'entend et me regarde, j'adresse de tout cœur mes remerciements pour le magnifique accueil qui m'a été fait ici par le peuple et par ceux qui ont la charge de le conduire. À chacune et à chacun de vous, j'exprime mes meilleurs souhaits pour sa vie, pour celle des siens, pour celle de son pays. À tous, je dis que la France nouvelle est l'amie de la Russie nouvelle. Vive l'Union soviétique, vive l'amitié de la Russie et de la France. On voit, en écoutant, en lisant ce texte, toute la diplomatie adroite dont de Kohl fait preuve, parlant de la Russie plus que de l'Union soviétique, parlant du peuple russe et du peuple français, en clair, imposant l'idée qui est profondément ancrée en lui que les nations que sont la Russie et la France sont supérieures à tous les régimes qui ont pu les dominer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Thank you.